L'actualité francophone de la semaine au Canada, c'est le Premier ministre Justin Trudeau qui a retenu l'attention. Il était en visite officielle à Washington et en Europe. En France, Emmanuel Macron a marqué les esprits. En Suisse, carton rouge adressé au Parlement, le peuple a dit non à la réforme de l'imposition des entreprises. En Belgique, la grande mosquée de Bruxelles fait débat. Et en Afrique, la République démocratique du Congo a connu de violents affrontements. En Belgique, Nathalie De Vic, plein feu sur le maire le plus méritant.
Oui, on dit bourgmestre chez nous. Et figurez-vous que le meilleur du monde est belge, le malinois Bart Somers. C'est une association de maires basée à Londres, la City Mayors Foundation, qui décerne ce prix tous les 2 ans pour récompenser les efforts d'un de leurs pairs sur un thème particulier. En 2016, c'était l'accueil des réfugiés. Alors si Malines, ville flamande de 86 000 habitants, a été choisie, c'est parce qu'avec ses 120 nationalités, et malgré ses 20% de musulmans, aucun jeune n'est parti combattre en Syrie grâce à une politique mêlant intégration et tolérance zéro, un modèle paraît-il. Bart Somers aime répéter que ce qui compte n'est pas l'origine mais le futur, qu'il n'y a ni autochtones ni étrangers, que chacun est unique et différent.
Au Canada, Benoît Audet, vous avez retenu le nouvel entraîneur du club de hockey des Canadiens de Montréal. Il s'appelle Claude Julien.
Oui, et il remplace Michel Therrien qui a été congédié par la direction en raison des mauvaises performances récentes de l'équipe. C'est un deuxième séjour derrière le banc du Canadien pour Claude Julien, un entraîneur respecté. Il a pour mission de relancer l'équipe. Être entraîneur du Canadien, c'est un poste prestigieux à Montréal où les moindres faits et gestes de l'équipe sont scrutés à la loupe par les amateurs.
Après le hockey, le foot. En France, l'entraîneur du PSG, Unai Emery, a vu son talent consacré puisque son équipe a vaincu le FC Barcelone 4-0 en Ligue des Champions. Une victoire retentissante où l'on salue enfin le coup de génie de l'entraîneur basque. Jusqu'à ce match parfait, selon les commentateurs, Unai Emery était sujet à beaucoup de critiques. Un coach pas au niveau, sans référence, qui fragilise le club. Mais depuis cette victoire historique, c'est une pluie de superlatifs qui lui tombe dessus. Chef-d'œuvre tactique, Emery digne des plus grands. Tout le mérite lui revient. Ce basque espagnol, fils de gardien de but, est d'abord un grand bosseur, un stakhanoviste de la pelouse, prenant le temps de faire à chaque match, pour chaque joueur, une vidéo de 7 minutes sur les adversaires qu'il aura affrontés. Redoutable meneur d'hommes, ce quadragénaire toujours parfaitement gominé, est un passionné de psychologie, capable, avec les mots, de métamorphoser des équipes. Il ne lui reste plus qu'à faire la même chose pour le match retour, et les Parisiens lui voueront un culte éternel. La personnalité africaine de la semaine pour RFI Anne Kantner, c'est le procureur de la Cour pénale spéciale en Centrafrique.
Un colonel, magistrat militaire, originaire de République démocratique du Congo, Toussaint Muntazini Mukimapa aura la lourde charge d'enquêter sur les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2013. Respecté et compétent, il a déjà contribué à des poursuites judiciaires contre des groupes armés. Il a été choisi par les Nations Unies en tant que membre international de cette cour, mais il devra attendre encore plusieurs nominations, notamment celle du juge centrafricain pour pouvoir commencer son travail.
En Suisse, Pierre Anchoffa, portrait de Ada Mara, elle est conseillère nationale et elle a enfin réussi à faire passer devant le peuple et les cantons un assouplissement des conditions de naturalisation.
Oui, cet élu socialiste du canton de Vaud a donné son nom à cet assouplissement. La Lex Mara permettra aux jeunes étrangers de la troisième génération de bénéficier d'une naturalisation facilitée. Un projet qui exclut tout automatisme. Ada Mara a eu l'intelligence de travailler sur une réforme modérée, une stratégie qui a payé. Pour la première fois, le peuple et les cantons ont validé un tel assouplissement dans un pays très attaché aux droits du sang et aux prérogatives des communes pour octroyer le passeport rouge à croix blanche. Une belle leçon d'intégration et de démocratie, de voir ainsi une fille de migrants initier cette modification de la Constitution.
Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rencontré le président Donald Trump cette semaine à la Maison-Blanche. C'était le troisième chef de gouvernement à rencontrer le président depuis son accession au pouvoir le 20 janvier dernier. Benoît Audet, cette visite représentait tout un défi pour Justin Trudeau.
Oui, il avait tissé une solide amitié avec l'ex-président Barack Obama. Disons qu'avec Donald Trump, c'est moins évident. Plusieurs de leurs politiques, notamment en matière d'immigration, sont à l'opposé. Et surtout, en campagne et depuis qu'il est président, Donald Trump a promis de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qui unit le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais malgré tout, Justin Trudeau est confiant.
Cette intégration de nos deux économies est extrêmement positive pour notre pays, pour nos deux pays, et c'est à ce niveau-là que nous allons continuer de travailler ensemble.
I agree with that 100%. We have a very outstanding
Donald Trump, lui, est d'accord.
Et comment le Premier ministre s'en est-il tiré?
Plutôt bien, selon la plupart des observateurs. Le président Trump a dit que ses menaces de renégocier l'ALENA visaient le Mexique beaucoup plus que le Canada. Le Premier ministre Trudeau, lui, comme on l'entendait tout à l'heure, a surtout voulu mettre l'accent sur ce qui unit les deux pays.
Si on vous comprend bien, une visite à haut risque qui se conclut de façon favorable pour le Canada.
Pour le moment, oui, Ottawa a atteint ses objectifs. Il n'y a pas eu de crise ou de déclaration à l'emporte-pièce. L'objectif, c'est que ça demeure ainsi tout au long du mandat de Donald Trump.
En France, une fin de semaine marquée par la campagne tous azimuts d'Emmanuel Macron. Sébastien Legénie.
Oui, tout a commencé en Algérie où Emmanuel Macron s'est rendu en milieu de semaine, une visite qu'il a terminée avec une interview retentissante à la télévision.
La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
La colonisation, crime contre l'humanité, une formule immédiatement dénoncée par la droite et l'extrême droite, indigne d'un candidat à la présidence pour François Fillon. Macron dénigre la France à l'étranger, lance le Front National. Et puis deuxième polémique le lendemain, cette fois sur la manif pour tous. Ces manifestants ont été humiliés selon Macron. Des propos qui ont là aussi scandalisé les anti-mariages pour tous, au point qu'Emmanuel Macron a dû clarifier sa position et rappeler qu'il était bien favorable au mariage gay. C'était sans compter enfin avec une dernière sortie hier, avec la révélation d'un pan de son programme sur la sécurité, tolérance zéro notamment pour les délinquants. Bref, un Macron qui pioche donc un peu partout, qui slalome et qui risque de fâcher et les électeurs de droite et les électeurs de gauche. Pour l'instant, les intentions de vote restent au beau fixe, mais son socle électoral reste très fragile. Seul un tiers de ses électeurs sont sûrs de leur choix.
En Suisse, Pierre Anchoffat, le peuple a balayé dimanche dernier la réforme de l'imposition des entreprises, un sérieux rappel à l'ordre adressé au Parlement.
Avec 60% de non, le résultat est sans appel pour la plus grande joie du Parti Socialiste à l'origine du référendum, un parti qui jouait là la première carte de sa nouvelle politique d'opposition constructive, comprenez sa stratégie de résistance face à la nouvelle majorité plus marquée à droite au Parlement, alors même que le PS participe toujours à la responsabilité gouvernementale.
Et comment cette majorité de droite digère-t-elle sa défaite?
Eh bien, frustrée de ne pas avoir su convaincre, la droite économique reconnaît avoir peut-être trop chargé le bateau et se dit prête à renoncer à certains des outils offerts aux entreprises pour réduire leur fiscalité, car nouvelle mouture il y aura pour répondre aux normes internationales. Mais certains, au sein de la droite souverainiste, sont plongés dans le doute, à l'image de l'UDC Roger Köppel.
Cette réforme était bonne parce que c'est nécessaire pour la Suisse d'être compétitif en ce qui concerne les impôts. Mais la motivation de cette réforme qui a été imposée par l'étranger à nous, peut-être l'UDC et moi aussi, nous devons réfléchir et c'est pas interdit d'apprendre de ces erreurs.
Visiblement décontenancé de n'avoir cette fois pas su sentir le pouls de la population, une partie de l'UDC envisage donc de jouer la carte de la résistance aux pressions étrangères dans la suite du débat. Or, rien n'indique que cet argument a joué dans le rejet des Suisses, bien plus préoccupés par leur pouvoir d'achat et par le risque de voir l'État couper dans ses prestations en cas de baisse trop importante des rentrées fiscales.
En Belgique, Nathalie Devic, la grande mosquée de Bruxelles est dans le collimateur des autorités.
C'est la mosquée la plus importante, l'une des plus influentes du pays. Or, depuis les attentats de Bruxelles en mars dernier, la sûreté de l'État la suspecte d'alimenter le salafisme en propageant un islam radical et déplore qu'elle soit en grande partie financée par l'Arabie Saoudite, donc forcément sous sa coupe. Ce que réfutent les Saoudiens devant les instances européennes, pointant de vulgaires préjugés. Même discours de l'imam venu représenter la grande mosquée cette semaine en commission d'enquête parlementaire. Mais alors, pourquoi refuser le contrôle de l'État belge? C'est toute la question des députés, résumée par l'un d'eux, Richard Miller, avec une exigence.
C'est que la grande mosquée demande sa reconnaissance et que l'on puisse alors avoir les outils qui permettent le contrôle. Comment voulez-vous que la confiance puisse s'installer si les représentants de la grande mosquée n'accomplissent pas cette démarche? Le test, c'est la demande de la reconnaissance.
Autre élément trouble, un gros investissement financier serait en discussion entre l'Arabie Saoudite et le port d'Anvers, qui ne plaît pas au vice-président de la commission d'enquête, Georges Dalmagne.
C'est une stratégie de l'Arabie Saoudite systématiquement. Ils ont créé un grand fonds souverain de 2000 milliards de dollars et ils investissent systématiquement dans les endroits en Europe où il pourrait y avoir des responsables politiques qui pourraient s'opposer à leur dessein.
S'il n'y a pas de danger de ce côté-là, estime le ministre de l'Intérieur, il n'en reste pas moins que l'OCAM, l'organe chargé d'évaluer la menace chez nous, met lui aussi en garde contre le développement dangereux du salafisme dans notre pays et certaines mosquées n'en seraient qu'un des nombreux vecteurs de diffusion, d'où la nécessité de mieux les contrôler.
Pour RFI, l'actualité africaine a été marquée cette semaine par de violents affrontements dans le centre de la République démocratique du Congo. Anne Kantner.
Oui, cela fait déjà plusieurs mois que la région du Kasaï central est secouée par des violences, mais la situation semble s'aggraver. Des habitants parlent de plus de 100 morts en quelques jours seulement. Et la mission de l'ONU a envoyé des experts sur place pour enquêter sur des soupçons de fausses communes. Tout a commencé quand un chef coutumier, Kamuina Nsapu, a demandé à être reconnu par les autorités. Reconnaissance qui s'accompagne d'un statut et parfois même d'un salaire. Mais ce chef n'a pas été adoubé par le pouvoir.
Et c'est à ce moment-là que le mouvement s'est radicalisé et a multiplié les attaques contre les symboles de l'État.
Oui, la plupart du temps, ces miliciens sont armés de fusils de chasse de fabrication locale, de machettes ou de bâtons. Et cela amène beaucoup d'observateurs à se demander pourquoi les bilans sont aussi élevés. Les Nations Unies s'inquiètent d'un possible usage excessif de la force de la part des militaires congolais. Et l'ONU rappelle aussi que la moitié des membres de cette milice sont des enfants. La plupart ont moins de 14 ans. Mais pour les autorités, il s'agit de jeunes drogués face auxquels il faut réagir fermement. Le gouvernement assure que les militaires n'ont fait qu'appliquer le principe de légitime défense, mais les Nations Unies, comme des députés de l'opposition, réclament maintenant une enquête indépendante pour vérifier ces déclarations.
Anne Kantner, Nathalie Devic, Pierre Anchoffa et Benoît Audet, merci. L'actualité francophone, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Retrouvez-nous sur le site lesmediafrancophones.org.